Mais oui, nous y sommes. Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue aux amateurs de sport en ce lundi 18h30. Un grand plaisir de vous retrouver, même si c'est fini, comme on le voyait souvent à la fin des spectacles ou des émissions produites par Juste pour rire. C'est bel et bien fini la saison 2018-2019 pour le Canadien de Montréal. Et ça, je dirais pas que c'est étrange, mais j'en parlais avec Danny Dubé juste avant d'entrer en onde. Il y a quand même quelque chose de particulier. Est-ce que ça peut se passer seulement à Montréal? Parce qu'il y a une équipe, normalement, dans la Ligue qui peut célébrer son dernier match. C'est celle qui gagne la Coupe Stanley. Et même si, évidemment, le Canadien n'a rien gagné au lendemain de son élimination formelle vendredi soir, c'est dans une atmosphère de célébration, grâce, bien sûr, à la performance quand même très spéciale du jeune Ryan Poehling, que le Canadien a complété son calendrier 2018-2019, comme quoi on n'est pas obligé de gagner quoi que ce soit de concret, finalement, pour satisfaire les partisans. Il y a un ton de quand même d'assez, je dirais, de satisfaction assez générale dans l'ensemble du public. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont continuer de cogner sur le clou du fait que c'est une troisième élimination en quatre ans. Puis c'est vrai que quand on contemple ça de cet angle-là, ce n'est guère réjouissant. Mais il faut avouer que comme carte marketing, comme élément qui incarne l'espoir, l'entrée en scène de Ryan Poehling, c'était assez difficile à battre. Mesdames, messieurs, bienvenue aux amateurs de sport. Et je suis bien entouré ce soir pour commencer la semaine. Et toute la semaine, on va être un peu en mode bilan. Demain, Mario Tremblay, Benoît Brunet, Marc-Antoine Godin, Marc Bergevin sera là et ce soir, c'est avec grand plaisir que j'accueille François Gagnon d'RDS. Bonsoir François.
Salut.
Philippe Quentin qui est notre collaborateur régulier. Bonsoir.
Salut
Philippe.
Mario.
Et Danny Dubé, analyste des matchs canadiens.
Philippe.
Et collaborateur régulier des amateurs de sport. Alors messieurs, on va-tu faire les séries l'an prochain?
Ça va être dur.
Ça va être dur.
Et je blague pas. Ben je blague pas parce que tu regardes Mario... les trois équipes qui participent aux séries cette année dans la division du Canadien, Boston, Toronto et Tampa Bay, je pense qu'ils ont des bonnes chances d'être là encore la saison prochaine. Ils ont encore d'immenses ressources à leur disposition. Avec le geste que viennent de poser les Panthers de la Floride aujourd'hui, Joanne Kelleville, ils ont déjà une bonne équipe parce que c'est le chaînon manquant, on peut peut-être le croire.
Comme Trotz avec les Islanders.
Exactement.
Parce que la structure
très belle comparaison.
Ça
voilà.
Va prendre un autre gardien de but aussi,
oui,
mais
oui,
au moins un bon élément.
Voilà. Alors Panarin là, tu dis,
s'en va là bientôt, je pense.
Peut-être.
Aussi.
Donc, il risque d'avoir une place encore pour les meilleurs deuxièmes là, dans la division du Canadien et dans l'autre qui fait partie de l'Association de l'Est. Alors, ça risque d'être encore très, 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 très difficile.
Ça fait peut-être drôle que je vous pose cette question-là sur l'an prochain alors qu'on procède au bilan de l'année. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que déjà, le match de samedi nous amène à l'an prochain. François, avant de passer la parole à Danny, comment évalues-tu donc la suite des choses?
Tu parlais du match de samedi. Pour moi, c'était la meilleure manière de terminer parce que ça permettait d'avoir de l'espoir en vue de la saison prochaine. Je vais te faire un parallèle que les fans du Canadien vont détester, là. Mais les Sénateurs d'Ottawa sont sortis de leur torpeur après une saison difficile. Quand Jacques Martin est arrivé là-bas, Pierre Gauthier est arrivé, il y a eu des transactions. Et les Sénateurs ont gagné le dernier match de la saison. C'était au New Jersey contre les champions en titre de la Coupe Stanley, les Devils. Et en battant les Devils, les Sénateurs sortaient les Devils des séries. OK? Et puis, Jacques Martin s'était servi de cet objectif-là pour dire, regardez, là, on a la chance aujourd'hui de faire notre premier, en langage de hockey, en mauvais français, notre premier statement. Dans l'avion, le retour de New York à Ottawa, c'était le party. La saison était terminée, mais la saison se terminait pour une première fois sur une bonne note. Et qu'est-ce qui est arrivé après? L'année suivante, les Sénateurs ont fait les séries, sortis en première ronde par Buffalo. Et l'année d'après, ils ont fait les séries, puis ils ont continué à être en ascension. Alors, pour moi, le match de samedi soir, c'est un match qui va servir de tremplin. Après la saison de transition, on a eu le match de tremplin, mais Philippe a entièrement raison, puis j'ajouterai les Flyers de Philadelphie avec Carter Hart dès le début de la saison prochaine et d'autres clubs qui vont vouloir les faire, là. T'sais, est-ce que la Caroline y sera? On ne sait pas, mais là, ils sont là cette année. Ils sont à prendre en considération. Alors, ce ne sera pas plus facile l'an prochain que ça l'a été cette année.
L'effet tremplin, Danny?
Ben, écoute, New Jersey n'est passé 97 points, cette année 72. Philadelphie, 98 points l'an passé, 82 cette année. Minnesota, 102 points, 101 points l'an passé, 83 pas dans les séries. Même chose pour Anaheim, 80 points, 101 l'an passé. Même les Kings de Los Angeles, 98 points, moins 27. La liste est longue d'équipes qui ont...
Floride, connu... 96 l'an passé, tu l'as nommé?
Je l'ai gardé pour le dessert, parce que la Floride, 96 points l'an passé, cette équipe-là croyait vraiment que cette année, c'était le passage aux séries d'après-saison. Je faisais partie de ceux qui croyaient ça. Je me suis fourvoyé. Je pensais que les Panthers allaient vraiment trouvé une façon de rentrer en série cette année. La blessure à Trocheck.
Ça, ça fait très mal.
Ça a complètement déstabilisé leur ligne de centre, leur équilibre, les trios. Un joueur, là. Un. Dans les premiers attaquants. Puis ça a complètement déstabilisé l'équipe. Puis là, ben, tantôt, je pense qu'avec raison, François soulignait là, les problèmes de santé, l'âge, tout ça. Là, Roberto vieillit. Donc là, la demande est très élevée. Cette année, ils ont fait 86 points. Donc, un joueur, une blessure.
Le manque de leadership d'un profondeur, coach aussi, ouais, parce qu'on l'avait avec Bobo Gouneux cette année.
C'est sûr. Mais en même temps, tu sais... souvent, tu donnes un gardien à un coach, tout d'un coup, son leadership n'est pas mieux.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Mais on a vu quand même avec Carey Price, ça peut prendre le bord pas plus tard que l'an passé. Alors, comme quoi, si on regarde. Mais c'est vrai, t'as raison, les gardiens, c'est Leonard et Grice avec les Islanders, ont certainement appuyé avec de belles performances toute la structure défensive amenée par Barry Trotz. Ça se complète tout ça.
Je vais même mettre un peu d'huile sur le feu là, en disant à Toronto, là, lorsqu'on a laissé partir Mikael Laine, là. Parce qu'on voulait avoir un plus jeune gardien. On disait, de toute façon, c'est un backup.
Mm-hmm. On a fait à ne plus négliger.
Grossière erreur.
Exact.
Pas juste une erreur de, tu sais, grossière erreur. Parce que, un, c'est une équipe offensive. Ils surchargent leur gardien de but. Ils donnent trop de chances de qualité. Et Anderson, c'est pas un gardien de but agressif. C'est un gardien de but qui reste dans le fond, qui est en réaction, tout ça. Ça te prenait un autre ingrédient devant le filet. Puis moi, je pense que Mikael Laine, le coach l'aimait. Les joueurs l'aimaient, mais la direction a décidé que c'est Sparks qui allait rester. Puis là,
ils l'ont tassé de l'équipe, d'ailleurs, Sparks. Oui, lui, qui est sorti publiquement il y a une couple de semaines pour dire que ça manquait de hang dans cette équipe-là.
Là, ils sont un peu pognés avec ça.
Ouais. Je vais relancer les prochains éléments de discussion par rapport à... Philippe, ça va faire écho à une discussion qu'on avait récemment, parce que tu sais, on se dit que l'évaluation, c'est tellement capital. Si tu veux continuer de progresser, faut que tu regardes les choses de façon lucide. Mm-hmm. Faut pas que tu te comptes d'histoire si tu veux continuer d'avancer. Mais il reste que... Au moment où on se demandait, nous, dans combien de temps, par exemple, un Poehling aura un impact avec les Canadiens de Montréal, je te lance tout de go parce que ça permet de récupérer l'actualité de samedi. Est-ce que la performance de Poehling samedi change quoi que ce soit à la liste d'épicerie de Marc Bergevin pour 2019-2020?
Moi, je pense pas. Puis je pense qu'il va falloir que Marc Bergevin fasse preuve de lucidité. Puis j'ai très hâte de voir quel genre d'été aura Marc Bergevin. Je pense que depuis son arrivée à Montréal, il y a eu de bons étés, comme le dernier, en 2018. Mm-hmm. Mais il y a eu de très mauvais étés aussi, où l'inaction a fini par rattraper le Canadien. Je pense notamment à l'été 2015, quand le Canadien a participé à deux rondes de séries éliminatoires. Il est devenu clair, après ces deux rondes-là, qu'il y avait un gros problème offensif. On n'était pas capable de marquer des buts. C'est un problème récurrent chez le Canadien. Bon, ils ont marqué des buts cette année, mais l'avantage numérique, disons que ça a été difficile. Et il n'y a pas eu de solution pendant l'été. Alors, dans cette ligue-là, si tu fais du surplace ou tu progresses juste un petit peu, c'est pas assez. Tu régresses, en fait, parce que les autres équipes, plusieurs équipes, vont faire des pas importants. Et ça, on le voit, les équipes qui sont pas capables, tout à coup, de se remettre en cause puis de faire une analyse sérieuse de la situation, elles en paient le prix. Et souvenons-nous, 2017, après l'élimination contre les Rangers de New York, moi, j'ai été un peu saisi par l'analyse du Canadien qui nous a dit « Ah, oh, on a eu plus de chances de marquer que les Rangers. » Puis, tu sais, il laissait entendre que finalement, c'était un peu un hasard s'ils avaient perdu. Ben non, ils ont perdu en 6 matchs, en première ronde, puis, tu sais, c'était pas génial comme performance. Alors, il va falloir de la lucidité, et ça, j'ai hâte de voir si on va avoir ça chez le Canadien cet été.
Ils n'ont pas le choix de l'avoir. Marc Bergevin a fait du bon travail au cours des derniers étés, je suis d'accord avec toi. Il y a ceux qui vont toujours lui reprocher Subban et Weber, puis ça change pas, ça va être vrai dans 25 ans.
Moi, je pensais à autre chose. Moi, c'est juste Radulov que j'ai pas. Avec Radulov cette année, je pense qu'on faisait série. Mais encore là, ça vaut rien parce que c'est fini.
Exactement, mais ça, c'est passé. Mais ce que j'allais dire, c'est que le plus gros été commence. Il s'en vient. Parce que, je sais pas pour Philippe, puis pour Danny, puis surtout pour les gens à la maison.
Pourquoi plus gros été, François?
Parce que moi, j'étais prêt à accepter que le Canadien fasse pas les séries cette année. Je regardais lucidement qu'est-ce qui allait se produire. Au début de la saison, on était assis les trois. C'était Ron qui était dans le fauteuil de Danny. Puis je disais, oubliez ça, les séries. Pensons-y pas. Pensons à bâtir vraiment. Ne nous laissons pas distraire par le fait qu'on pourrait se battre en série puis d'avoir l'impression qu'on est proche.
T'étais même déçu qu'on...
Oui.
Oui, on
parce
court après
que
une place en série.
Même à la date limite des transactions, si je reprochais quelque chose à Marc Bergevin, c'est de ne pas avoir pris la vraie décision. Il est resté à cheval. Il a fait de bonnes transactions. Y a-tu quelqu'un ici qui va me dire que Jordan Wheel n'a pas amélioré le Canadien? Non, il a amélioré le Canadien. Il n'a pas fait assez pour amener à son équipe en série, mais il aurait dû, à mon avis, peut-être larguer quelques joueurs, justement pour avoir un meilleur choix au repêchage encore, ce qui s'en vient. Avoir d'autres jeunes pour que l'an prochain, ce soit plus sérieux. Parce que là, tu regardes le Canadien, là, il y a trois tâches primordiales pour Marc Bergevin. Un gardien de but auxiliaire de qualité. On en a besoin.
Ce ne sera pas Lindgren, selon toi?
Ah, moi, j'ai pas confiance en Lindgren.
Ils vont lui donner une chance.
Je pense qu'il l'a eu samedi passé. S'il y a quelqu'un d'autre disponible, quand tu regardes son parcours dans la Ligue américaine, je suis pas convaincu que ce soit le gars. S'ils vont avec lui, tant mieux. Là. Moi, je te donne mon opinion. Ça prend un défenseur pour évoluer soit avec Weber, si c'est pas Mété qui est là, ou avec Petrie, si Mété reste avec. Et ça prend le but qui a manqué tout le temps. Le gros but. Le Canadien a marqué beaucoup de buts cette année, mais il a marqué souvent des buts dans des matchs qui ne valaient pas dire grand-chose. On mène 6-1, on en compte 2 de plus, 8-1 à Détroit. Le lendemain d'un revers gênant qui a coûté la place en série de 2-1 le 25 février à Jersey contre un club de Ligue américaine.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec François. C'est le match. S'il y en a un à isoler sur le calendrier qui a fait mal, à mon avis, c'est celui-là.
Et ce match-là, le gros but n'est pas venu. Comme le gros but n'est pas venu en Caroline dimanche il y a deux semaines. Comme
Chicago,
le gros but
2-0
est pas
à Montréal.
Venu à Columbus. Puis Danny, ils ont tout vu, là. Puis ouais. Tu vois le Canadien qui joue bien, qui a des occasions de marquer, mais le gros but vient pas parce qu'il manque le gars pour le faire.
Mais, en fait, c'est. Le gars, je suis pas sûr. Je vais juste peut-être.
Le power play, tu sais.
Ben, ma vision de ça est un peu différente. C'est pour ça que je veux prendre le temps de peut-être pour
juste
mettre ça en perspective. Ça va rendre la discussion encore plus intéressante à aller déjà, mais juste amener une autre dimension. Moi, je pense que le Canadien et les Islanders de New York, c'est à peu près le même combat. Dans le sens que depuis qu'ils ont perdu Tavares, ils ont une bonne équipe, là. Trompons-nous pas, j'aime beaucoup leur défensive, comment ils ont bâti leur équipe. Mais ils ont pas. Il se fie pas sur un joueur pour marquer un but. Il se fie habituellement sur la rotation. Leur quatrième trio leur a donné extraordinaire.
Vraiment.
Le meilleur de la Ligue.
Meilleur de la Ligue. Puis ce sera pas le Canadien qui va égaler ça l'an prochain. Je penserais pas. Même si Poehling, c'est une lueur d'espoir pour avoir un petit peu plus d'attaque sur un quatrième trio, parce que je pense sincèrement que c'est là qu'il va commencer. Même s'il va chauffer un petit peu Kotkaniemi durant la saison. Mm-hmm. Mais ceci étant, le problème du Canadien, c'est la deuxième moitié de saison. Ça fait des lunes que c'est ça. Est-ce que ça a rapport au calendrier? Comment le calendrier est organisé? On peut dire ce qu'on veut, mais la réalité, c'est que la deuxième portion du calendrier, c'est toujours difficile et c'est toujours difficile sur la route. Là, je vous ramène dans les chiffres, pas vous étourdir avec les statistiques, mais 19 parties à l'étranger dans la deuxième portion du calendrier, donc dans les 41 dernières rencontres. Le Canadien a gagné 7 fois seulement. Alors là, tu dis, ouais, et c'est pas assez, il faut que tu joues pour 500. Je regarde la fiche de l'équipe offensive à l'étranger, 2,5 buts par match.
Dans ces 19 matchs-là?
Dans ces 19 matchs-là, 2,5 buts par match. 3,1 défensivement. Ça n'a pas bougé défensivement toute l'année.
Puis t'as une game à Détroit qui veut pas fausse les données. À la hausse, là, t'as 8 buts qui viennent doper l'analyse.
Alors là, je me dis, ça me fatigue. Là, j'ai regardé les deux en deux. En deuxième portion du calendrier, 500. Donc, pas de dommages. On aurait aimé probablement en gagner un peu plus, mais pas de dommage. Donc ça, on peut pas dire l'équipe est pas assez lourde, 2-2. Ils ont fait le travail. Maintenant, en deuxième portion de calendrier, Max Domi, ça a été le meilleur joueur du Canadien. Il a fait 35 points. Il a 14 buts. Savez-vous comment il y a de buts sur la route? 5. Mm-hmm. Gallagher en a 18 buts en deuxième moitié. Il a 29 de ses 52 points. Combien de buts à l'étranger? 5. On parle de 19 matchs, là.
C'est Tatar qui en a le plus.
Tatar, il y en a 5 aussi. Celui qui en a le plus, ironiquement, c'est Armia. Armia, il y en a 7. Il a 16 points dans la deuxième portion du calendrier. Il a 7 buts sur ses 10. Il y en a 7 à l'étranger, donc 8, et pour un total de 8 points. Mais là où le bas blesse, c'est tous les autres. Tu as des joueurs chez le Canadien. Drouin, aucun.
Jonathan n'a pas beaucoup.
Aucun après les fêtes. Pas après les fêtes. Depuis à partir du match 42, lui en a pas. Dano n'en a pas, même s'il a eu un rôle extrêmement important. Il a 10 points quand même. Il a fait beaucoup de passes, mais Jonathan en a pas et Kéké en a pas. Après ça, on voit des gars comme Lekkonen qui en a un. Évidemment, là, les autres, c'est des nouveaux. Là.
Ça fait t'as choc, il y en a trois, mais dans le même match. Tu sais, le buffet ouvert à Détroit, encore une fois, là, qui vient fausser les données. Mais c'est quoi le remède de ça, Danny?
Ben, en fait, c'est là où il faut parler de la ligne de centre. C'est là où il faut parler du troisième, quatrième trio. Moi, je pense que le Canadien doit trouver une façon de bâtir son quatrième trio. Ça veut dire que Jordan Weal devient impératif pour l'équipe.
On le signe?
Oui, ça, absolument. Absolument, t'as besoin de lui. Il est droitier, il prend le centre, il est capable de jouer à l'aile.
Il a prouvé sa valeur.
Etc. L'avantage numérique, ça a mieux fonctionné dans le dernier droit parce qu'on a commencé à jouer en bas de la zone. Mm-hmm. Alors là, ça nous amène à une question fondamentale. Qui va être le joueur pivot en bas de la zone pour donner la rondelle au gars dans l'enclave ou en jeu en croisé quand Weber se déplace ou qui que ce soit? Parce que au début, là, ça marchait pas parce que tout le monde voulait toujours donner la rondelle à la même place. Là.
Ça a été long avant qu'on s'ajuste, qu'on trouve la bonne solution.
Ça a été trop long.
Ben oui. Le coaching est impliqué dans ça aussi. Ben oui. Il y a l'exécution et le coaching.
À un moment donné, là, il dit, hey, let's go, changez ça. Là, on a commencé à bouger les joueurs de place, à changer les options, puis à varier. Alors ça a été mieux. Alors moi, je dis, le troisième, quatrième trio impératif, l'histoire du gardien de but, c'est sûr, parce que là, Price a fait le travail, on n'en parle pas, mais si, mettons, on s'approche des séries, ben là, il n'y a plus rien dans le réservoir. Là. T'es rendu à 62, 64, 65, 66. Dans cette réalité-là aujourd'hui?
On va s'arrêter un court moment là-dessus. Pause publicitaire. On revient avec Philippe Quentin, Danny et François Gagnon. Et tu as évoqué déjà le sujet. On va continuer. Je vais vous poser la question. Des questions tournées vers l'avenir qui nous permettent aussi de revenir sur ce que le Canadien vient de vivre. Est-ce que Marc Bergevin doit absolument convaincre un agent libre sans compensation de venir jouer à Montréal? Si oui, qui et à quelle position le besoin est-il le plus grand? On revient immédiatement aux amateurs de sport.
Voici le joueur du match. Il a déjà le tour du chapeau. Saisit la rondelle. Ça va devant Dershowitz. Il pointe. Il ose le goal! Ron Perlow! Et ça lui en fait quatre!
Les mains vides!
Bang!
Les derniers moments, donc, de hockey en 2018-2019 au Centre Bell. Ah oui, ça, je disais, c'est quand même assez incroyable que ça se termine dans une atmosphère de célébration au lendemain d'une élimination en saison régulière. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que la performance d'un joueur comme Poehling change la liste d'épicerie de Marc Bergevin pour l'autonomie ou la liste des joueurs autonomes? Vous m'avez tous dit non. Mais il y a d'autres décisions qui peuvent avoir un impact. Alors, juste avant de passer au ce qu'on appelle les UFA, aux joueurs autonomes, le cas Jonathan Drouin, êtes-vous absolument convaincu qu'il est de retour l'an prochain? Est-ce que vous pensez qu'on veut continuer de travailler à améliorer ce qu'on est allé chercher en retour de Sergachev? Ou quand on considère le mode de la voie empruntée par Marc Bergevin avec les gars qui semblaient plus ou moins cadrés dans le casse-tête, Subban, j'en oublie Pacioretty, Galchenyuk et compagnie, normalement c'est bye-bye, on passe à un autre appel. Vous êtes en quel mode avec Jonathan Drouin?
Ben, moi, je pense que c'est un mauvais moment pour l'échanger. Sa valeur n'a jamais été aussi basse. Là. Il y a eu une mauvaise saison, il faut se le dire. Quand tu étais blanchi en situation où tu dois contribuer, tu es blanchi 23 matchs sur 25 en fin de saison, on ne peut pas dire que tu as une grosse valeur. Ça demeure un excellent joueur de hockey, beaucoup de talent. Le talent, ça a une valeur dans cette ligue-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir l'an prochain à le redémarrer? Je pense que c'est un défi pour Jonathan Drouin, c'est l'évidence même. Un défi aussi pour les coachs. Il va falloir qu'ils réfléchissent cette année à la façon dont ils vont s'y prendre. Il va falloir qu'ils trouvent la bonne combinaison. Alors, je pense qu'il y a un défi là. Puis pour l'autre point dont on parlait tantôt, Mario, si tu permets, il y a un débat philosophique là, qui oppose François et Danny, à savoir comment on règle un peu le problème. Est-ce que c'est l'attaque par comité, avec tout le monde qui contribue, la thèse de Danny, ou c'est le marqueur? Tu sais, moi, je me rapproche un petit peu plus peut-être du camp de François là-dedans. Je regardais encore le match Columbus Rangers vendredi soir, quand les Blue Jackets se sont assurés la place en série. C'est 1-1 en deuxième quand Panarin arrive. Puis il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Un tir imparable. Après ça, en tir de barrage, c'est lui qui va marquer le but. Et puis ces joueurs-là, en plus, ils apportent une dimension au niveau du spectacle qui est absolument unique. Alors,
c'est ce qu'on attendait de Drouin à Montréal cette année,
mais il l'a pas fait. Cela dit, c'est sûr qu'on peut faire un bout de chemin aussi, puis les Islanders le démontrent. Mais moi, le gros joueur vedette, ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a pas eu un à Montréal.
Le comité, on l'a à Montréal. Il est déjà là.
Oh oui.
Le Canadien est parmi les meilleurs clubs de la Ligue nationale à 5 contre 5. Ouais. Ce qui a fait mal, c'est l'avantage numérique. Et en avantage numérique, normalement, tu vois tes meilleurs éléments. Bon, à Montréal, on a vu Lekkonen, on a vu Armia qui a marqué ses deux premiers en carrière, pas de la saison. Alors, il y a
les gars, je ramène sur Drouin.
Mais revenons sur Drouin. Moi, je partage l'avis de Philippe sur le fait que c'est pas le moment de l'échanger. C'est un petit gars qui a besoin de se ressaisir personnellement, mais qui a besoin d'être ressaisi aussi par l'équipe. Parce que Jonathan Drouin, il y a deux facettes. Il y a le Jonathan Drouin qui a récolté 53 points en 34 matchs, ce qui est phénoménal. Et il y a le Jonathan Drouin qui a été blanchi 47 fois en 81 parties. Mettons qu'on est capable, du côté du Canadien, à dire au Jonathan Drouin qui a été blanchi 47 fois en 81 matchs, on pourrait-tu avoir une douzaine de parties avec un peu plus de points? Mais là, tu es en série. Parce qu'il y a des points comme ça qui vont arriver en avantage numérique. Jonathan Drouin a une personnalité particulière. J'ai appris à le découvrir cette année. C'est un gars qui est, je dirais, il y a entre deux points, là, il n'y a pas juste une ligne droite, il y a un madrier.
Donc, tu essaies de continuer de travailler avec, toi, François?
Moi, je continue à travailler avec au moins encore un an. Quitte à le perdre encore plus, mais tu ne peux pas le perdre cette année.
Danny, toi?
Ouais, moi, je pense que t'es un peu coincé dans cette situation-là parce que c'est un joueur qui coûte quand même pas mal d'argent pour des résultats qui sont en dessous de la barre de sa catégorie de joueur. Puis c'est un jeune joueur. Alors, on dit toujours, les jeunes joueurs, soyez patients. Moi, je pense qu'on lui a donné beaucoup d'argent vite à Montréal. Mm-hmm. Là, on est en train de réaliser que c'était peut-être un peu trop rapide, ce qu'on a fait dans son cas. Puis là, ben, il faut gérer tout ça. Alors, il faut revoir l'environnement, comment il est, avec qui il joue, comment il est utilisé. Tout ça, là, les entraîneurs vont se parler, vont dire, OK, y a-t-il quelque chose qu'on aurait dû faire ou quelque chose qu'on a fait qu'on n'a pas bien fait? On va mettre ça sur la table.
Serais-tu renversé que Marc Bergevin, lui, ait déjà que sa mèche, je sais pas si elle était courte, mais que lui, il soit déjà prêt à passer à autre chose? Non, la rumeur veut qu'il ait tenté de l'échanger à la date limite des transactions.
Je serais pas surpris de ça. Je serais pas surpris parce que Marc, c'est pas le genre de gars qui attend longtemps. Quand il a fait son idée, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, mais est-ce qu'il va obtenir assez pour lui? Là, c'est un autre débat avec les chiffres qu'il a cette année.
La discussion est loin d'être terminée avec François, Danny et Philippe. C'est drôle, je me rappelle de Carey Price au printemps à Lac en 2010. Il avait 23-24 ans. C'est exactement l'âge de Carey Price. Comme quoi, il y a moyen de revenir de moments difficiles. On revient tout de suite. La discussion se poursuit.